Le journal des idées, Jacques Munier.
France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques.
Bonjour Dani, bonjour à toutes et à tous.
La cause des femmes est intimement liée à la critique de la domination masculine, Jacques.
Oui, Dani, ça semble une évidence, mais si aujourd'hui le constat des inégalités est fait dans le détail, si les femmes sont sorties de l'angle mort de l'histoire grâce à des historiennes comme Michel Perrault, le système de la domination masculine semble moins étudié, à l'exception des travaux fondateurs de Pierre Bourdieu et de Françoise Héritier, ou encore des gender studies, ce qui n'est pas rien, bien entendu. Dans l'interminable séquence actuelle des affaires de harcèlement sexuel, l'hebdomadaire Le 1 s'emploie aujourd'hui donc à renverser la perspective en tentant de déconstruire le mythe de la virilité, qui d'après Olivia Gazalet s'avère bien souvent anxiogène pour les hommes eux-mêmes. En ce sens, l'émancipation des femmes serait aussi une libération pour eux. La virilité est un modèle de domination sur la femme, mais aussi de l'homme par l'homme, rappelle la philosophe. C'est également un idéal nostalgique. À chaque époque, on regrette la virilité prétendument originelle qu'on aurait perdue. Déjà chez Aristophane, au 5e siècle avant Jésus-Christ, transparaît le regret des vrais hommes face à des contemporains jugés efféminés. L'auteur de l'ouvrage qui vient de paraître chez Robert Laffont sous le titre « Le mythe de la virilité » estime qu'elle induit des assignations sexuées souvent mortifères pour les hommes eux-mêmes et les rapports qu'ils entretiennent avec les femmes, à la fois coercitifs, discriminatoires, mais aussi contraignants et paradoxaux. Le modèle de la virilité est un idéal hors d'atteinte qui traduit avant tout la vulnérabilité, l'inquiétude que les hommes ont en partage, ce qui illustre la sémantique étrange du mot testicule qui vient de testis, la preuve, faire ses preuves, endosser le rôle. Les garçons apprennent ça dès l'école, comme le montre Julien Bisson qui a mené l'enquête dans une classe élémentaire des Alpes-Maritimes. Dans ce premier lieu de socialisation, des stéréotypes apparaissent. Les filles sont plus soigneuses, leur écriture est plus nette, tandis que les garçons se montrent plus brouillons, mais aussi plus inventifs, observe Charlotte, leur institutrice. Si des progrès sont manifestes dans les manuels scolaires, d'autres inégalités perdurent. Les directeurs invariablement masculins, l'interdiction des jouets dans la cour, à l'exception des ballons en mousse, le tracé du terrain de foot qui offre l'espace de jeu central aux garçons, lesquels forment la grande majorité, 80% des élèves punis à l'école. La sociologue Sylvie Héral s'est penchée sur la question. Le passage par la case sanction relève d'un rite de virilité. Les garçons font exprès de se faire punir car ils savent pouvoir en tirer des bénéfices secondaires en termes de popularité. C'est une conduite sociale qui leur permet de se distinguer des filles, jugées plus scolaires, plus obéissantes. Quant à elles, les filles, c'est Christian Baudelot, le grand spécialiste des sciences de l'éducation et de la sociologie de l'éducation, qui analysait que si elles réussissent mieux, c'est aussi parce qu'elles ont compris que l'école, malgré tout, était un lieu où faire valoir leur droit à l'égalité bien davantage que dans le milieu familial.
La sexualité masculine est-elle violente? Manon Pollic pose la question dans l'hebdomadaire.
Oui, là aussi, Dani, il semblerait qu'on soit dans le mythe, celui d'une pulsion irrépressible dont se justifient les agresseurs. La psychanalyse, la sexologie montrent qu'il n'y a pas de besoin sexuel au sens où l'absence de sexualité ne développe pas de maladie chez l'homme. Par contre, et c'est sans doute un effet pervers du modèle de la virilité, les hommes en veulent toujours plus, d'où une forme de frustration que certains ont du mal à gérer. L'hypersexualité de notre société, caractérisée par la tyrannie de la performance et de la jouissance à tout prix, n'apaise en rien ce sentiment de frustration. L'image de l'homme conquérant et de la femme objet continue de nourrir l'imaginaire de l'industrie cinématographique, des jeux vidéo, des publicités, mais par-dessus tout de la pornographie, résume Manon Pollic. Et pourtant, la chimie des émotions montre que le dosage de testostérone s'accroît chez les femmes dans les états amoureux précoces, les plus passionnels, alors qu'il baisse chez les hommes dans le même temps, eux qui en sont pourtant les mieux pourvus. Un bel effet d'équilibrage vient alors renverser les rôles. Pour les hommes, il faut en rabattre sur la volonté de puissance afin de paraître tout beau, tout nouveau, tout gentil. Pour les femmes, au contraire, cet afflux lâche la bride à l'esprit de conquête, si bien que dans ce moment où s'enflamment les passions et qu'il s'agit de faire durer, les hommes sont des femmes comme les autres et inversement. La formule est de Groucho Marx. Oui.
J'adore. On salue par ailleurs la sortie d'une nouvelle revue, Jacques.
Oui, Panthère Première. C'est une revue féministe de critique sociale, son premier numéro, avec un dossier qui proclash sur la portée subversive des actes de langage et un article sur les rapports de genre dans la mécanique sentimentale hétéro. Vous êtes-vous déjà surprise à perpétuer les pires clichés dans votre couple, feindre l'indifférence, souffrir de jalousie et d'insécurité sans en lâcher un mot, surjouer la liberté sexuelle, jeter la vaisselle contre les murs, l'amour sur le ring côté femme ou l'art et la manière de déconstruire sans détruire. Et puis je ne peux pas ne pas mentionner l'excellente revue Travail, Genre et Société qui est sur ce terrain donc depuis des années, qui arpente les questions de genre. Travail, Genre et Société, donc tous les liens, les références à retrouver sur la page du Journal des Idées sur le site franceculture.fr.